J'ai réussi totalement cette
histoire. Moi, c'est une de compagnie au personnage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de précisément trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix, qui vous accorde la parole en ce début de semaine. Le président de l'aile de l'opposition dite nationaliste, Steve Mbikaï, qui soutient le dialogue, propose une transition politique dirigée par l'opposition pour préparer les élections. Cette transition pourrait être formellement actée au cours du dialogue que prône le président Joseph Kabila. L'ancien premier ministre Adolphe Muzito, dans sa 9e tribune publiée la semaine dernière, a révélé pour sa part les différents scénarios pour ce qu'il qualifie de dialogue citoyen et politique avec deux formules au choix pour la transition. De son côté, Vital Kamerhe propose un dialogue plutôt à Beni pour parler des tueries, mieux la situation sécuritaire dans l'est du pays. Par ailleurs, l'Union africaine a nommé le 15 janvier dernier l'ancien secrétaire général de l'OIA, Eden Kojo, comme consultant en vue de ce dialogue. Au regard de cette évolution, que pensez-vous des interventions des uns et des autres? Vous pouvez nous rejoindre à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien nous appeler au 081 890 7315 pour votre intervention en direct. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Notez que Julie Fezabogunda est au standard, voilà, est au standard. André est à la mise en onde et Pierrot et la Mégie réalisent ce programme qui est coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Martin Sebou Jangwe. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci à vous, chers internautes, pour les messages que vous avez pu déposer sur notre page Facebook. Nathalie Samumba Nzuzi, vous avez écrit à parole aux auditeurs en disant que le respect de la Constitution s'impose pour tout Congolais qui veut la paix et développement de notre pays, particulièrement pour notre chef de l'État, garant de cette Constitution et qui est un démocrate. L'alternance démocratique apporte toujours un plus pour l'avancement du pays. Le dialogue, c'est bon, mais pas pour une transition que nous savons tous depuis un temps est un espace politique du partage du gâteau qui est la RDC, qui est un bien patrimoine, un patrimoine de tous. Notre chef de l'État est jeune, il ne doit pas suivre ceux qui les jurent que pour l'économie de pillage. Merci beaucoup. Maître Likonza de Kinshasa, le dialogue reste impérieux pour finir le blocage créé des communs accords, mais en vérité, dialoguer ou pas dialoguer, 2016 est loin d'être une année électorale. Peu importe la magie que l'on pourrait faire. Ermac Exia de Kinshasa, une situation voulue et créée par la majorité au pouvoir, que ces majorités trouvent des solutions aux situations qu'ils ont occasionnées. La finalité cachée de ces dialogues est le partage du gâteau. Merci beaucoup. Nous rejoignons donc Maurice qui est à Kinshasa. Maurice, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, Jérôme Lungembo. Je salue l'ensemble des auditeurs qui nous suivent de partout au monde.
Vous avez la parole, Maurice.
Bon, je dirais ceci. D'entre les jeux, je dirais que Steve Mbikaï, il est congolais d'abord. En tant que tel, la Constitution lui garantit certaines libertés qui sont en fait inscrites dans notre Constitution, notamment la liberté d'expression, la liberté de penser. C'est quelqu'un qui a réfléchi et qui a usé de cette liberté pour dire tout haut ce que certains de nos compatriotes réfléchissent et parfois disent tout bas. Alors, de ce fait, il a fait quand même une analyse. C'était au cours, je crois, d'un conclave avec ses partenaires politiques et ils sont arrivés à une conclusion au regard en fait de l'impasse politique qui s'observe et devant cette impossibilité pour lui en fait d'organiser les élections dans les temps imparti par la Constitution. Alors, vous avez dit, je voudrais d'abord pour peut-être aider ceux qui vont intervenir après moi, donner peut-être deux orientations sur lesquelles certains pourront peut-être en fait émettre leurs opinions. Nous avons, il y a quelques mois ici, suivi la publication de statistiques d'un rapport de la CENCO qui nous renseignait que 75% de Congolais n'avaient pas confiance aux élections. Alors, s'il faut partir de ces chiffres, nous dirons que une écrasante majorité de Congolais, dont moi-même je fais partie, n'ont pas confiance des élections. Pourquoi nous n'avons pas confiance aux élections? Nous n'avons pas confiance aux élections parce que ceux que nous élisons ne sont pas proclamés. Et ceux qui dirigent le pays sont ceux-là qui sont nommés par le système actuel. Alors, nous disons ceci. En 2006, par expérience, nous avons vécu ce que nous déplorons, ce que les catholiques ont dit qu'il n'y a pas confiance des élections par le Congolais. En 2011, c'est le même système, c'est-à-dire le régime actuel qui a organisé les élections en 2006 et qui a réédité le même exploit en 2011. Pour moi, ça c'est moi qui estimerai qu'il ne sera pas question que ce même système de pouvoir puisse organiser les élections en 2016 parce que ça sera du bonnet blanc, blanc bonnet, et ça sera vraiment déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre.
Oui, Maurice.
Alors.
Maurice.
Oui.
Nous sommes en 2006, parce qu'on y est, vous avez évoqué cela. L'UDPS, parti au pouvoir, refuse carrément ce que nous avons appelé les élections de 2006. Et pendant cette période, la CENCO que vous venez d'évoquer fait une déclaration, donc le comité permanent des évêques fait une déclaration qu'ils ont intitulée « Lèvons-nous et bâtissons pour un Congo nouveau ». Alors, dans cette déclaration, il a été dit ceci, j'ai encore la lettre avec moi, c'est comme si c'est de l'actualité. Après 45 ans d'atermoiement, dont près de 15 ans d'une transition inutilement longue, le peuple espère qu'avec les élections qui s'approchent, aboutir enfin cette année 2006 à l'instauration d'un véritable état des droits. Comme nous n'avons cessé de le dire, tant d'années après l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, nous estimons que notre peuple ne mérite guère de continuer à porter ce lourd fardeau d'incertitude du lendemain, d'insécurité grandissante et des misères intolérables. Bon, je vous parle un peu de la suite, mais l'idée à ce niveau, les évêques ont décidé en 2006 qu'on aille aux élections, et les élections ont eu lieu. Deux fois de suite, 2006, 2011, 2011. Alors, les raisons aujourd'hui, parce que tout le monde se pose la question, pour quelles raisons on ne sera pas en mesure d'organiser ces élections?
Bon, vous savez, moi je n'encourage pas en fait la non-tenue des élections. Mais je suis quelque part objectif et réaliste. Et c'est comme, je crois, vous avez fait le tour du message, je crois, posté par Maître Likonga. Il a dit que quelle que soit la magie qu'on va appliquer, les élections ne pourront pas se réaliser conformément au calendrier actuel. Parce que le calendrier a été publié avec beaucoup de contraintes. Donc, certaines contraintes demandent beaucoup de temps, de budget, tout ça est logistique. Alors, raison pour laquelle nous disons ceci. Il n'y a pas d'abord la volonté politique. Nous avons noté d'abord dans le gouvernement actuel l'absence de la volonté politique d'organiser les élections. C'est-à-dire, lorsqu'on va tenter forcer ce gouvernement ici à organiser les élections, c'est-à-dire, ce qu'il va faire, les élections qu'il va organiser, ça va juste créer une situation ingérable dans le pays.
Maurice, on arrive au 20 novembre, il n'y a pas élection, le gouvernement continue, la majorité continue à gérer sa majorité.
Raison pour laquelle nous disons que lorsqu'on va au dialogue, c'est d'abord pour faire le constat que ce gouvernement n'a pas pu organiser les élections. C'est-à-dire qu'il faut l'aider jusqu'au bout de terminer ses mandats, comme ça une transition politique avec de nouvelles institutions qui vont se mettre en place, c'est juste pour organiser les élections crédibles. Parce qu'on ne doit pas forcer ces gens qui ne veulent pas organiser les élections.
Merci beaucoup,
le gouvernement a montré face au monde qu'il n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'organiser des élections.
Merci beaucoup.
Nous avons monté dans la poche des gouvernements.
Voilà, il y a beaucoup qui vont intervenir, Maurice. Merci beaucoup. Nous retenons simplement pour vous, vous avez fait mention du rapport de la CENCO qui parle de 75% des populations qui n'ont pas confiance aux élections cette fois-ci. Donc pour vous, le dialogue est très important, mais la crainte pour les uns et les autres, c'est que ce dialogue peut absolument amener à une transition. Raison pour laquelle Steve Mbikaï propose déjà une transition avec à la tête l'opposition. élections. Et Adolphe Mouzitu, l'ancien Premier ministre, lui parle dans sa tribune, dans sa 9e tribune, publiée la semaine dernière, de transition, de dialogue, c'est-à-dire un dialogue social et un autre dialogue politique, pourquoi pas. Voilà, donc il y a un temps. Et puis Kamere qui parle d'un dialogue à Beni pour parler des tueries, mieux la situation sécuritaire dans l'Est. Voilà, merci beaucoup Maurice. Eddy, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Eddy.
Bonjour.
Vous avez la parole, Eddy.
Bon, moi j'aimerais seulement intervenir concernant votre thème de dialogue. Hein? Tous les Congolais, y compris moi-même, nous sommes pour les dialogues. Mais nous ne voulons pas qu'au sortir de ces dialogues, il y ait une transition ou encore un troisième mandat pour l'actuel président de la République. Moi, je suis jeune, j'ai une trentaine d'années depuis que je suis né. Je n'ai jamais vu une alternance au niveau présidentiel dans ce pays. C'est pourquoi tous les Congolais qui ont mon âge veulent d'abord voir une alternance. Nous ne voulons pas une nouvelle transition. Souvenez-vous de la transition de Maréchal Mobutu à l'époque de la Conférence nationale souveraine depuis 1990. C'est en 2015, en 2006, si ma mémoire est encore bonne, que cette transition avait pris fin. C'était 15 ans. 16 ans plus tard. Et si nous nous livrons encore à une nouvelle transition aujourd'hui, pour que ça finisse quand? Peut-être que cette nouvelle transition prendra fin 20 ou 30 ans après. Donc, ce n'est pas une bonne chose pour notre démocratie qui est encore jeune. Et nous voulons que, moi particulièrement, je veux que mon pays soit classé parmi les pays qui ont une culture démocratique ici en Afrique, en l'occurrence le Ghana, la Tanzanie, même le Nigeria. Le Nigeria, bien qu'il y ait les situations de Boko Haram, tout ça, mais il y a eu une élection.
Donc nous sommes capables d'aller aussi aux élections.
Ça nous intéresse aussi. Moi, je suis pour l'alternance.
Merci beaucoup, Eddy, d'avoir partagé ce moment avec nous, en complétant, bien entendu, Maurice, qui parlait tout à l'heure d'un dialogue qui est vraiment opportun. Et vous estimez qu'il faut vite aller aux élections, comme l'ont dit les évêques il y a 10 ans, dans cette déclaration du comité permanent des évêques, qui parlait de la situation dans laquelle sortait la RDC, après avoir organisé une longue transition depuis 90 jusqu'en 2006, et tout le monde a salué cet avènement de changement, et que nous voulons garder et capitaliser. Merci beaucoup. Nous allons prendre notre invité qui était en ligne depuis le Lubumbashi. Il s'agit bien entendu du professeur Emmanuel Bani-Wesize. Professeur, vous êtes avec nous, bonjour.
Et bonjour Elamegi, bonjour les auditeurs de Radio Capi.
Alors professeur, vous êtes avec nous, vous venez de suivre les intervenants de tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétudes et beaucoup d'appréhensions par rapport à ces débats. Aujourd'hui, c'est vrai, Steve Ndikaï a proposé une transition pour dire que voilà, lors de ce dialogue, je crois que l'aboutissement, ça sera pratiquement une transition. Et cette transition qui doit être dirigée par l'opposition. Donc on parle là d'un dialogue politique. Alors, Adolphe Mouzitu, dans sa 9e tribune, insiste sur un dialogue citoyen et un dialogue politique. Entre les deux, qu'est-ce qui est prioritaire?
Bon, alors, merci beaucoup. Alors, j'ai suivi les interventions des uns et des autres, comme j'ai également suivi les débats des hommes politiques, en fait, les déclarations des différents hommes politiques. Alors, ce qu'on peut noter d'abord, parce que vous avez commencé par ce qui pense, notamment l'opposition nationaliste, qui pense qu'il faut prévoir une transition. Alors, je voulais réagir tout de suite pour dire que, enfin, réagir à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que si nous faisons passer cette idée, si la classe politique fait passer cette idée et surtout la fait aboutir en disant qu'il faut entrer dans une transition, cela signifie que nous entérinons l'échec même de la démocratie dans notre pays. Parce qu'en fait, il s'agirait donc de dire qu'après 10 ans de gouvernance démocratique, et donc quand j'ai dit 10 ans, parce qu'on sait que les premières élections véritablement démocratiques dans notre pays ont été organisées en 2006, et au terme desquelles Joseph Kabila avait été élu président de la République, et donc nous sommes en 2016, il fait donc 10 ans depuis que nous expérimentons la démocratie. Et donc dire que nous entrons dans une nouvelle transition démocratique, Alors cela signifie que nous entérinons qu'il y a l'échec de la gestion démocratique de notre pays, que la démocratie a échoué chez nous et qu'il faut faire une transition vers une autre façon de gérer le pays, de gérer les territoires et les populations qui sont suivies. Ce serait dommage. Donc de vouloir vraiment faire passer cette idée-là. On ne peut pas, nous avons fait déjà une transition malheureuse qui nous a coûté en vie, mais aussi en temps. Nous sommes en train nous avons régressé énormément avec la longue transition que nous avons connue, avec les guerres que nous avons connues. Nous ne pouvons plus nous permettre d'entrer dans une nouvelle transition qui signifierait l'entérinement de l'échec de la démocratie. Or, la démocratie n'a pas échoué chez nous. Et il n'y a pas une autre façon de bien gérer la société qui a été expérimentée au-delà de la démocratie. La meilleure façon de gérer la société et de gérer les hommes, en tout cas, c'est révéler que la démocratie. Nous avons déjà fait l'expérience de la dictature pendant 3 ans et nous en connaissons les dérives et les conséquences. On ne peut plus se permettre de sortir de la démocratie et d'expérimenter d'autres modes de gestion qui n'ont jamais fait preuve nulle part ailleurs dans le monde. Voilà. Deuxième intervention. Ceux qui pensent qu'il faut faire une nouvelle transition, qu'il faut changer de république, en fait, finalement, parce qu'il s'agit essentiellement des hommes politiques, entérinent aussi l'idée selon laquelle notre pays est entré dans la phase de la transfiguration du politique. Nous vivons malheureusement cette période-là. Nos hommes politiques sont transfigurés. Et puisqu'ils sont transfigurés, finalement, ils sont déconnectés complètement des réalités du peuple. Ils n'écoutent plus le peuple, ils s'écoutent eux-mêmes, dans les hémicycles, dans les hôtels. Mmh. Et ils se parlent eux-mêmes. Et ils se convainquent qu'en se parlant eux-mêmes, en monopolisant la radio et la télévision, finalement, ils disent ce que pense le peuple. Mmh. Et qu'ils pensent qu'ils ont le pouvoir de décider en lieu et place du peuple. Et que finalement, le peuple, c'est la partie de l'État qui ne connaît rien. Or, justement, cette transfiguration fait qu'ils sont tellement éloignés du peuple qu'ils ne disent plus ce que pense le peuple. Moi, je pense qu'on doit rester dans la démocratie. Nous sommes en janvier. Et les élections sont prévues au mois de novembre. Il nous reste 10 mois. Il s'agit de savoir clairement qu'est-ce que nous voulons pour notre pays. Est-ce que nous voulons respecter la Constitution? Dans un tel cas, il faut savoir quelles sont les élections que nous sommes en mesure d'organiser et de réaliser avant novembre. On organise ces élections-là, quitte à ce qu'on puisse organiser d'autres élections. On puisse les échelonner en 2017.
Voilà, professeur.
Mais cela n'entraîne pas automatiquement qu'on puisse aller dans une transition.
Voilà, professeur, on va revenir à vous, professeur. Vous avez en fait relevé 2 points. L'échec de la démocratie qui passera en fait par l'acceptation de pouvoir aller en transition après les dialogues. Et deuxièmement, c'est la phase, donc c'est s'inscrire dans la phase de la transfiguration politique. Donc vous avez estimé que ça serait un danger pour.
L'inspiration politique, je viens de le dire, c'est le fait que les hommes politiques sont complètement déconnectés. En fait, ils prétendent tous parler au nom du peuple.
Voilà.
Alors, en réalité, ils sont déconnectés de ce que pense le peuple, de ce que vit le peuple, la souffrance que vit le peuple chaque jour. Le peuple n'a plus besoin de souffrir tant. Il faut qu'ils écoutent les paroles des gens en parlant et même à la radio et à la télévision. Ce n'est pas en monopolisant les publics qu'ils pensent qu'ils disent ce que pense le peuple. Ils sont complètement transfigurés, ils sont dans les nuées. Et là, ils pensent que ce sont eux qui doivent dicter ce que veut le peuple. Le peuple, ils souffrent beaucoup. Et la finalité de la politique, ce n'est pas la conservation du pouvoir.
La finalité de la politique, c'est de
développer le pays, c'est de transformer le pays.
On va
faire en sorte que les gens souffrent le moins possible.
Alors, on va revenir à vous, professeur.
Même de la politique.
Voilà, on va revenir à vous, raison pour laquelle nous avons parlé des dialogues citoyens et dialogues politiques, tels que l'apprenait dans la 9e tribune, publiée la semaine dernière, l'ancien Premier ministre Adolphe Ndizi, tu l'as dit. Alors, Steve, vous êtes avec nous, Steve Kibata, vous avez une idée sur aujourd'hui, parce que je venais de poser cette question, vous êtes juriste, aujourd'hui, dialogue citoyen, celle qui est prônée par Adolphe Ndizi dans sa 9e tribune, est-ce que c'est important par rapport à un dialogue politique tel que vient de développer le professeur Bani Ouessizé, qui en fait parle de la transfiguration politique, les hommes politiques qui sont dans les nuages, et la population reste en bas. Alors, donc on peut dire à ces jours, le dialogue est important, mais un dialogue citoyen, un dialogue social.
Oui, effectivement, je l'ai constaté que nos conceptions sont en osmose avec les conceptions du professeur Ignace, parce que effectivement, l'ancien Premier ministre, dans sa tribune, en parlant de deux dialogues, parle du premier dialogue qui est formel, le dialogue politique, plus de 22 dialogues organisés dans notre pays, et de dialogues récurrents parce que le rapport de force changeant à chaque instant, le politique n'ayant comme ambition que la conquête et la préservation du pouvoir, ils organisent le dialogue entre eux pour résoudre des problèmes qui ne le concernent que en dehors du peuple. D'où le deuxième dialogue. Le deuxième dialogue, c'est un dialogue non formel. C'est pas forcément qu'on doit se mettre ensemble avec le peuple, mais c'est plutôt un dialogue permanent que les acteurs politiques doivent avoir envers l'opposition, avec le peuple. Que vous soyez de la majorité, que vous soyez de l'opposition, parce qu'on doit quand même les dire, depuis 1960, il y a ceux qui sont partis de l'opposition vers la majorité vers l'opposition, vice-versa. Il y en a même, dans quelques temps, qui viennent d'être de la majorité et qui sont actuellement dans l'opposition. Donc ces dialogues, ça serait une évaluation de chaque acteur politique envers le peuple. Vous étiez, aujourd'hui nous avons plus ou moins 56 ans d'indépendance, qu'est-ce que le politicien au fait du peuple? Parce que dans l'entretemps, quand le politicien dialogue, il doit savoir que de l'autre côté, il y a plus de 2 millions de nouveaux chômeurs qui entrent dans le marché d'emploi. Lorsqu'ils sont en train de dialoguer, ils doivent savoir que de l'autre côté, lorsqu'il y a pluie, il y a des inondations qui amènent à ce que les gens meurent. Lorsque eux, ils sont en train de dialoguer, ils doivent savoir qu'on n'a pas un plan d'aménagement de la ville de Kinshasa qui fait que nous sommes étouffés juste au simple 10% du territoire. Ils doivent savoir que le vécu quotidien de la population ne s'améliore pas, même si on
crie
la
croix. Cet état des lieux est connu, parce que nous avons connu pas mal de dialogues, pas mal de assises qui ont été organisées autour de toutes ces questions. Nous pouvons citer les cas de Saint-City, on peut aller plus loin, bien avant, il y a eu la conférence nationale souveraine, tout récemment avec les concertations nationales. J'ai bien lu tout à l'heure la déclaration des évêques qui ont salué même l'avènement de l'avancement de la démocratie en 2006. Mmh. Et aujourd'hui, si vous lisez cette lettre, vous retrouvez comme si vous êtes vraiment dans les temps, c'est comme si c'était intemporel, parce qu'il demandait, il dit, ben, après 15 ans de transition, aujourd'hui, proposer encore des transitions, proposer un dialogue qui, autour de tout ça, il n'y a pas l'intérêt de la population, c'est nul.
Mais malgré ça, il faut le reconnaître que les politiciens ont toujours été à côté de véritables souhaits du peuple, de véritables du peuple, dont les dialogues politiques ne résolvent que le problème de la crise horizontale entre politiciens. Parce que le politicien, même ceux qui parlent du prétexte du respect de la Constitution, en réalité, ce n'est qu'un prétexte. Parce que on a vu que certains gouverneurs ont eu à glisser avec le pouvoir. C'était une violation de la Constitution, mais ils n'ont pu le remarquer qu'à un certain moment lorsque leurs propres ambitions étaient mises en mal. D'où, pour les dialogues politiques, l'ancien Premier ministre donne différents scénarios qui peuvent découler après les dialogues. Le premier scénario, c'est un scénario où, après les dialogues, on prend comme résolution de respecter la Constitution et d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Mais il donne quand même la nuance, ok, c'est bon qu'on respecte les délais constitutionnels, mais l'opposition a réclamé la révision du fichier électoral, qu'on considère aujourd'hui comme étant
l'enroulement des nouveaux majeurs.
L'enroulement des nouveaux majeurs, mais on part plus loin, on considère que le fichier est pourri et qu'on doit arriver à l'enroulement. L'UDPS réclame qu'on puisse récomposer la CENI. Il y a le problème du financement des élections, il y a le problème du calendrier électoral consensuel, il y a les problèmes même du commencement du dialogue.
Donc, cette contrainte-là
nous amène à nous poser la question, amène l'ancien Premier ministre à se poser la question dans le premier scénario, est-ce que, avec toutes ces réclamations, on pourra organiser les élections dans le délai constitutionnel? Le deuxième scénario, on dit, bon, On sait que les élections ne seront pas organisées dans les délais constitutionnels. On conserve la constitution actuelle, mais mettons en place un gouvernement d'union nationale. Gouvernement d'union nationale suppose qu'on révise la constitution actuelle.
Oui.
Parce que le gouvernement actuel est l'émanation du Parlement ainsi que l'émanation du président de la République. Alors, le gouvernement d'union nationale, ça ne doit dépendre ni du président ni du Parlement. Il faut réviser la constitution quant à ce, et on accepte un glissement technique de 2 ans.
Donc, s'il faut réviser. Il y a raison de dire qu'il y a une transition avec l'opposition.
Oui, non. Dans le deuxième scénario dont parle le Premier ministre, on est d'abord dans les cadres de la constitution actuelle.
Mmh.
Steve Mika, je pense qu'il est dans le troisième scénario, où on dit, le président lui-même considère que on ne va pas organiser les élections dans le temps, alors il accepte de partager les pouvoirs avec l'opposition. Seule l'opposition peut dire.
Mais en réalité, il va partager les pouvoirs ou bien lui, il est fin mandat.
Non, on est encore en 2016.
Oui.
On est encore en 2016. Non, il est encore président.
Le 20 novembre.
Le 20 novembre, c'est
on ne peut pas parler de partage des pouvoirs avant le 20 novembre.
Non. Le président peut, de manière courageuse, considérer que ça ne serait pas possible d'organiser les élections dans les délais. Il accepte déjà de partager le pouvoir avant 2016.
Jusqu'au 20 novembre.
Non, avant 2016, il peut prendre cette décision ensemble, dans le dialogue avec d'autres acteurs
politiques. Mais nous sommes déjà en 2016.
Mais après 2016, nous sommes dans un autre cas de figure.
Là, il faut plus
après 2016, le président n'a plus de légitimité. Il n'a qu'une légitimité relative. Là, soit l'opposition peut faire un coup de force, elle réussit à faire
nommer le président. Donc, on va vers le dialogue gouvernemental.
081-893-15
pour votre intervention en direct.
Votre connexion internet est trop lente? RadioOkapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes mail. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mail, c'est gratuit. RadioOkapi.net à votre service.
Merci beaucoup de votre fidélité à RadioOkapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échanges citoyens. Professeur Ignace, vous êtes à Colésy. Ernest Amatadi. Professeur Ignace, bonjour et bienvenue dans cette émission.
Bonjour. Bonjour Pierrot et bonjour le professeur Nathan.
Voilà, oui.
Allez, oui.
Allez-y,
oui,
allez-y.
Non.
Allez-y, professeur.
Oui, j'ai une lecture quelque peu différente de l'analyse qui était faite tout à l'heure. Je dis que d'emblée, je constate que le problème autour de l'ordre du jour en ce qui concerne le dialogue à venir pose beaucoup de difficultés. Voilà la cause de plusieurs conceptions, plusieurs cogitations autour de ce qui sera fait. Cela est constaté dans la Constitution, liberté d'expression oblige. Mais je voudrais réagir par rapport à la réaction de Steve Mikaï. Je suis quelque peu inquiet. J'aurais souhaité, n'est-ce pas, que cette proposition de transition ne soit pas venue de la bouche des opposants qui sont pro le dialogue aujourd'hui. Ce serait quelque peu pour moi anticiper les choses et même pousser à croire que ce serait l'objectif même de ceux qui vont là-bas, à savoir le partage du pouvoir. J'aurais préféré encore que l'on ait pris le temps parce que même si aujourd'hui, il y a, comme on le dit, trois courants. Il y a le pro-dialogue, il y a les anti-dialogues radicaux et le pro-dialogue avec une autre conception, pas celle de la majorité. J'aurais aimé, parce qu'on parle d'un dialogue inclusif. L'inclusivité, pour moi, devient un problème qui est un idéal qui ne sera pas atteint et qui est la cause aujourd'hui de la prolongation, c'est-à-dire en longueur inutilement. J'aurais aimé, parce que qu'on le veuille ou pas, ceux qui sont pour le dialogue selon la conception de la majorité savent exactement quelles sont les attentes de ceux qui ne veulent pas venir ou de ceux-là qui hésitent un peu. J'aurais aimé que, pour gagner le temps, parce que le grand problème aujourd'hui, ce sont les élections. On devait déjà commencer avec ceux qui sont d'accord pour considérer aussi les aspects de ceux qui ont refusé parce que c'est connu que préoccupation, on devait les prendre en compte et faire des propositions. Parce qu'aujourd'hui, le problème doit être un problème technique. On devait déjà commencer la révision du fichier électoral et arriver à une situation
voir si réellement nous ne serons pas en mesure de le faire. Mais qu'est-ce que je constate? On dure en longueur à cogiter, à faire des philosophies, à faire des propositions à gauche, à droite, alors qu'on devait être déjà sur terrain, commencer le travail.
Peut-être
qu'on pourrait récupérer le temps. Parce qu'on va nous dire, non, nous ne serons pas en mesure, pas en faire autant, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire?
Proposer.
Qu'est-ce qu'on dit qu'on ne sera pas en mesure? Pas
voilà. Voilà, merci beaucoup, professeur Ignace. Voilà, merci beaucoup, professeur Ignace, parce qu'en ce moment où tout le monde se pose la question, on a des idées focalisées autour du dialogue, on oublie que nous sommes, disons, dans une année électorale, personne ne parle des élections, personne ne parle de la Constitution. Alors, est-ce une façon pour nous, aujourd'hui, de nous retrouver dans un flou pour que finalement, on soit pris des cours et ne sachant rien faire, on accepte ce qui va se présenter devant. Merci beaucoup, professeur, d'avoir appelé depuis Colésy. Nous allons prendre Ernest qui est à Matadi. Ernest, bonjour.
Bonjour, JR.
Vous avez la parole, Ernest.
Merci beaucoup. Moi, je constate que j'ai une petite inquiétude dans le sens que lorsqu'à l'époque on a demandé la conférence constitutionnelle, les délégués sont partis pour réclamer la conférence nationale souveraine et ça a pris du temps pour résoudre la question qui était en actualité le moment, à ce moment, à cette époque-là. Maintenant aujourd'hui, l'inquiétude c'est quoi aussi? Les délégués à ce dialogue seront sélectionnés de manière équitable ou pas? Or, si ce ne sera pas de manière équitable, il y aura une majorité de délégués qui viendront de la majorité présidentielle actuelle et une minorité qui viendrait de l'opposition et de la société civile. Ce qui signifie que dans au sein des dialogues, comme il y aura des consensus, l'opposition et la société civile ne seront pas capables de faire les choses pour contre la majorité qui a voulu et qui a préparé cette situation qui amène le pays à ce dialogue
oui, inévitable
et qui a une possibilité d'organiser des élections.
Mais si je comprends bien, Ernest, la majorité, pardon, l'opposition mise ensemble aux côtés de la société civile ne seront pas à même de pouvoir arracher ce que proposent aujourd'hui les acteurs politiques, entre autres syndicats, qui proposent une transition qui sûrement peut aboutir après les dialogues, mais dirigée par l'opposition. Et donc, vous dites qu'ils nous donnent des scénarios pour nous amener soit à ces dialogues citoyens ou à ces dialogues politiques.
Il y a une difficulté. Comment nous avons un gouvernement ici de la majorité présidentielle et de la majorité parlementaire. Aujourd'hui, comment nous allons balancer la situation qu'on donne le gouvernement de transition? Même si cette transition est de 8 mois, comment le gouvernement de transition, géré par l'opposition, pourra avoir une majorité au niveau de l'Assemblée pour que les lois qui seront votées par rapport aux élections soient des lois exécutables et, pendant le gouvernement? Sinon, je me dis, s'il y a une erreur, la majorité, le gouvernement de l'opposition, si on balançait la majorité, on risque de voir des situations et des crises. Si un jour, un matin, on se réveille comme ça, le Parlement prend une décision pour décider le président de la République, parce qu'on va se sentir, on n'est pas lié avec lui par des textes et des lois.
Voilà, donc pour vous, c'est un chemin dangereux.
Moi, je me pose la question. Si aujourd'hui, nous sommes au mois de janvier, finissant, il y a 8 mois qui nous restent, et si on mettait la transition de 8 mois, c'est-à-dire que cette transition de 8 mois pouvait être éliminée aujourd'hui, d'ici 8 mois, la CENI peut organiser les opérations pour la deuxième au mois de novembre. Parce que je crains. Le 20 novembre 2011, pas d'élection. Décembre 2011, plus de 7 mois, ce sera déjà à peu près au-delà de 2013, cette nouvelle élection. C'est-à-dire que c'est la même opération qu'on peut faire aujourd'hui. Il suffit que la volonté du gouvernement soit là et qu'on débouche la loi, qu'on soit sincère au niveau national pour qu'on gagne la confiance de la population à contribuer aux élections, qu'on soit sincère face à la communauté internationale.
Merci,
pour que nous puissions faire les opérations dans les délais
heureux.
Merci
beaucoup, Ernest. Merci beaucoup, Ernest. Il y a, en tout cas, les combinés continuent à sonner, les standards, en tout cas, on doit rester devant tout le monde. Hubert, vous êtes à Kinshasa. Hubert, bonjour.
Oui, bonjour, Gilles.
Voilà, Hubert, aujourd'hui, il y a des inquiétudes, ça y est là. Bon, d'aucuns redoutent qu'on arrive au 20 novembre, qu'il n'y ait pas des élections, et que le dialogue puisse aboutir à une transition, que cette transition puisse, en fait, constituer l'échec de la démocratie et permettre à ce qu'il y ait transition politique, les gens qui ne vont pas s'occuper de la population, qui ont de leurs propres intérêts. Est-ce que vous partagez cet avis?
Je ne partage pas totalement cet avis parce que je mérite que les gens se posent des questions d'abord, mais c'est la question de savoir pourquoi en est-on arrivé là. On doit se rappeler qu'en 2011, il y a eu les élections qui étaient mal organisées, qu'il fallait suspendre les autres élections. il fallait mettre notre CENI à la place, on l'a mis, et il fallait maintenant voir le problème du fichier électoral. Fallait-il le maintenir ou le réaménager? La majorité à l'époque avait proposé un recensement, l'opposition avait dit non, et il y a eu un blocage. Mais maintenant, c'est que les gens doivent noter qu'il ne faut pas oublier que le pays n'est pas, il n'y a pas de conflit institutionnel dans ce pays. Mmh. On n'est pas en guerre institutionnelle ici.
Oui, Hubert, ça c'est un débat, ça c'est un débat qui, on a évolué aujourd'hui.
Ça, on ne peut pas oublier.
Alors, on essaie d'organiser une transition.
Alors, j'entends M. Steve Bicaille qui dit ce qu'il propose, ce qu'il propose là.
Oui.
Bon, il est permis à tout le monde de rêver, mais il ne peut pas prendre ses rêves pour la réalité. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas sortir de la Constitution. Nous avons déjà une Constitution dans ce pays. Alors, il ne faut pas en sortir. Ben, si on en sort, on reviendra encore à la case départ et il y aura des problèmes. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, à mon avis?
Mm-hmm.
Comme on ne peut pas sortir de la Constitution, il faut enlever aux gens l'argument du fichier électoral. Parce que tout le monde s'accroche à ça pour dire non, nous ne pouvons pas aller parce qu'il n'y a pas enrôlement, parce qu'il y a certains Congolais qui sont exclus. Je pense que la priorité aujourd'hui devait être d'enrôler, si, je ne sais pas quel terme il faut utiliser, enrôlement ou récemment. Pour que tout le monde puisse être capable de participer aux élections. Si par malheur, alors, cette opération ne permet pas de faire une élection au 20 novembre, mais moi je pense que c'est là où il faut maintenant discuter.
Tout à fait.
Où il faut discuter. On ne peut pas faire la Constitution. Et que les institutions fonctionnent. Pourquoi ne pas dire, nous continuons avec les mêmes institutions et nous programmons une date fixe pour les élections après cette opération. Pardon, après ces opérations du fichier électoral. Parce que chercher à sortir, à faire de l'institutionnalité, ça veut dire que nous allons nous engager dans une voie sans issue.
Mm-hmm.
Donc je pense que ça, le gouvernement d'Union nationale n'a jamais rien donné.
Après
les concertations, il y a eu un gouvernement.
Après les politiques, c'est le gouvernement le plus faible.
Quelle année la suite?
Merci beaucoup, Hubert. On va revenir parce qu'il y a beaucoup de gens. On va encore revenir. La deuxième série vient de passer 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance, reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Professeur Emmanuel Bagnio-Essizé, vous êtes avec nous en ligne. Vous êtes encore là, professeur?
Oui, je suis là. Oui.
Alors, vous venez de suivre cette deuxième série des auditeurs. Comment vous réagissez?
Alors, ce que je note de toutes ces interventions-là, c'est qu'il y a finalement les débats engendrés par l'appel pour les dialogues révèlent une dichotomie dans le corps social congolais. C'est qu'on peut constater finalement qu'il y a deux camps qui sont en face l'un de l'autre. Il y a donc les camps de ceux qui pensent qu'il faut défendre la démocratie et que cette défense de la démocratie passe par la défense du respect de la Constitution, notamment ce qui concerne l'organisation des élections présidentielles et législatives dans le délai constitutionnel. Et de l'autre, il y a ceux qui, tout en se défendant de ne pas vouloir vraiment sortir de la démocratie, de ne pas vouloir nous faire revenir en arrière dans notre pays, il y a donc ceux qui pensent qu'il faudrait quand même tenter une nouvelle transition, quitte à faire ce qu'on appelle un glissement, parce que cette transition signifie en d'autres termes qu'on entérine un glissement, pour mieux changer la République. Parce que finalement, si on entre dans une nouvelle transition, on entérine donc les glissements que tout le monde redoutait, et ce glissement ne pourra arriver au terme de ce glissement qu'en changeant de République, en passant à la 4e République. Or, passer à la 4e République signifie réécrire une autre constitution, la soumettre au référendum et la faire promulguer. Donc il y a ce débat finalement, les débats et les dialogues révèlent ça. Or, dès le départ, l'idée du dialogue n'était pas celui-là. Ceux qui ont souhaité qu'il y ait dialogue, c'est notamment la majorité présidentielle. Et ils disaient que s'il y a des dialogues là, va planter les décors, va baliser les chemins pour qu'on puisse organiser des élections apaisées. Enfin, c'est ça l'idée vraiment qui ressortait. Mais finalement, on comprend et de plus en plus que le dialogue n'a pas vraiment pour visée de baliser les voies, pour qu'on puisse organiser les élections dans les délais.
Oui, oui, professeur.
Mais plutôt pour qu'on puisse sortir de la démocratie.
Oui, professeur.
On puisse faire, entrer oui. dans une nouvelle transition
oui,
qui va nous conduire vers une nouvelle république.
Oui, professeur,
et,
juste une question.
C'est ça qui est dommage parce que, enfin, la plupart des qui sont dans la majorité se sont vraiment défendus dès qu'un oncle, et parfois ils ont même dit qu'on leur prêtait des intentions, qui n'avaient pas l'intention de glisser, qui n'avaient pas l'intention de sortir de la Troisième République pour nous mener vers une Quatrième République, et donc de changer la démocratie. Or, de plus en plus, on comprend que des voix s'élèvent clairement pour s'exprimer à haute voix, pour dire qu'il faut malgré tout changer de constitution et qu'il faut accepter en fait une situation de fait que nous ne pouvons pas organiser les élections. Bon, moi, je ne comprends pas, personnellement et scientifiquement parlant, je ne comprends pas pourquoi on peut penser que il est encore impossible d'organiser les élections présidentielles et législatives en novembre. Je ne comprends pas. Cela n'a pas été suffisamment
argumenté. Oui, professeur, on va évoluer.
Pour nous convaincre qu'il est impossible d'organiser en tout cas les élections présidentielles et législatives.
Voilà, professeur, on va revenir à
les vous. Autres les élections, je peux comprendre. Oui. On peut les reporter en 2017. Oui. Mais je ne comprends pas pourquoi on peut penser qu'il est difficile aujourd'hui d'organiser.
Voilà, professeur, on va revenir à vous.
Je crois qu'on n'a pas relevé. Et je voudrais, si vous le permettez, dans une minute, on a nommé un médiateur.
Oui,
et là encore, il y a, ça révèle, et malheureusement, encore une fois, pour notre pays, enfin, on a mis une figure qui est, c'est vrai, c'est une figure qui est connue, Eden Kodjo est connue, mais ce n'est pas quand même un bon exemple pour l'enracinement de la démocratie en Afrique, malheureusement. Ce n'est pas la personnalité qu'il nous fallait donner un exemple, si on veut vraiment enraciner la démocratie.
Vous faites allusion à la médiation.
Que Eden Kodjo représente sur le plan scientifique, ce qu'il a publié scientifiquement, mais quand même on sait aussi son passé politique dans son pays. Il n'est pas quand même déjà en
voilà, je crois qu'on va pas personnaliser le débat. Merci beaucoup, professeur. On va revenir à vous. Oui, on va revenir à vous, professeur. On va revenir à vous. Il est temps d'accorder également la parole à Steve Guevata. Aujourd'hui, c'est vrai, on a comme l'impression que les gens ont dévié le débat sur l'essentiel, les élections. Steve, aujourd'hui, dialogue. Dans la tribune, vous êtes revenu sur les dialogues, citoyens, dialogue. Mais ça, c'est pas une façon de pouvoir désorienter la population sur ce qui est important actuellement, les élections. Et le respect de la Constitution.
Effectivement, les élections sont importantes, très importantes, mais les élections ont plusieurs préalables pour être organisées, et nécessitent plusieurs préalables pour être organisées. La révision du fichier électoral, qui était d'abord une réclamation de l'opposition, récupérée par la majorité, la question du financement de ces élections. Donc il y a plusieurs questions qui demandent en réalité qu'on entre dans les dialogues. Et en principe, l'ancien Premier ministre Mouzito ne propose rien, mais il étale plusieurs scénarios qui peuvent permettre à ce que l'opposition, la majorité, puisse s'en inspirer. Donc il donne deux cas où l'on peut respecter la Constitution, garder l'actuelle Constitution et voir comment organiser les élections. Mais il y a d'autres scénarios où il montre très bien que on peut mettre la Constitution de côté, accepter une transition, et là, il dit effectivement, si nous voulons accepter une transition, alors il en faut deux. Pas parce qu'il aime les transitions, mais tout simplement parce qu'il voudrait qu'on résolve.
Mais déjà, nous sortons d'une longue transition, des 90 en 2016, en 2000, pardon, 6, ça fait 15, pratiquement 10 ou 10 ans, 16 ans, je crois 15 ans. Donc on a fait une longue transition, alors il faut en ajouter encore deux, si j'imagine, deux, quatre, ça fera 20.
Non, d'abord, il faut savoir que la deuxième transition, elle n'aura pas, elle aura aussi compétence de gérer la République. Donc, cette transition sera une transition des élus. Une transition qui aura la légitimité nécessaire. Mais la première transition, l'ancien Premier ministre voudrait quand même que ça puisse nous aider à résoudre le problème du péché originaire. Parce qu'il faut savoir que la Constitution de 2006 a été rédigée par le belligérant, par un rapport de force non populaire, non légitime. Alors lui voudrait que s'il nous arrivait d'avoir une transition, alors la première transition devra organiser les élections.
La légitimité de la majorité actuelle, c'est sur base de cette constitution. Nous avons parlé ici d'un document, ici de l'attente ou des attentes entre
les belligérants. Effectivement, mais nous avons peut-être pas un problème d'institution, mais nous avons un problème de constitution, d'où elle n'est pas respectée parce que en réalité, elle a été rédigée uniquement par les belligérants et le peuple n'y a pas participé, du moins simplement en aval par un oui ou non.
Il y a une qui a proposé aussi des scénarios en demandant que, par exemple, on puisse laisser l'histoire des nouveaux majeurs, qu'on puisse gérer certaines questions.
Mais ça doit se décider dans un dialogue. D'où, effectivement, le dialogue devient, je ne suis pas un défenseur du dialogue à tout prix, mais le dialogue devient de plus en plus incontournable. Même dans le cas où le président de la République ne serait plus à la tête du pays, il faudra que les gens dialoguent pour décider l'avenir du pays. Donc, les opposants doivent voir comment entrer dans le dialogue pour déjouer le calcul de la majorité s'il y en a.
Mais est-ce que pour parler du financement des élections, il faut simplement aller au dialogue ?
Eh bien, si aujourd'hui le budget de l'État, le fonds des ministres
vietnamiens, est garanti dans la Constitution pour le gouvernement congolais ?
Ben non, pas nécessairement. C'est vrai que la compétence régalienne d'organiser les élections, ça revient au gouvernement, mais si le gouvernement est incompétent, l'opposition ne doit pas dormir sur ses lauriers. L'opposition doit amener toutes les propositions possibles.
Non, la Constitution parle de l'article 64, c'est-à-dire la population, pas l'opposition.
Non,
la population.
Je dis d'abord le parti politique. Amener des propositions d'obtention du financement même à l'extérieur du pays. Ça, c'est pas le peuple qui va le faire. Donc, dans ces dialogues, on peut réfléchir aussi sur où
voilà.
Est-ce qu'on peut trouver la
propositions. On va écouter les auditeurs aussi, on revient à vous, Steve, et puis on va accorder également la parole au professeur Bani Ouessézi. Alidor, vous êtes à Kananga. Bonjour, Alidor.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole, Alidor.
Oui, d'abord, je vous remercie, c'est Alidor Moutiendi à Kananga. Vraiment, nous sommes contents qu'avoir tout le monde parle du dialogue. Nous, les populations congolaises en général, en 95%, sommes d'accord pour le dialogue. Respecter d'abord notre constitution et voir d'abord ce qui passe dans notre maison. Notre maison, c'est la République démocratique du Congo. Quand vous voyez les enfants qui sont en train de parler, de lire, ou ça, de faire n'importe quoi, papa va dire, c'est quoi ici à la maison? Il y a quoi? Il dit, il y a un problème. Tonton m'a tapé. Papa va voir tout le monde, se remettre sur la table pour dialoguer. C'est deux. CENI, CENI ici à Kananga, il y a eu juste le président de la CENI qui était CENI ici à Kananga. Il nous a dit au salle du Capitole, il dit, impossible pour organiser des élections à la date prévue par la Constitution, parce qu'au moins 13 mois, ça, le vice-président de la CENI qui nous a dit ici à Canada, au moins 13 mois pour organiser l'élection, ça c'est point. Le deux, c'est lui qui dit que quand on arrive d'abord, on va aller au dialogue, après le dialogue, il y a une transition, dirigée par un membre de l'opposition. Oui, d'accord. Je veux demander d'abord, tout le monde qui propose que non, après le dialogue, il y aura une transition dirigée par un opposant. On donne d'abord les critères. Quel opposant? De quelle rang? Parce que moi-même, ici, à l'idée au Moutini, le temps, je me dis, je suis opposant. Mais là, tu vas dire, je suis opposant. Ça veut dire, quel opposant? Parce que nous ne voulons encore pas tomber de ce qui était passé à la salle du bus. Quelqu'un se lève le matin comme ça, on fabrique quelqu'un à la salle pour lui dire, non, la quatrième va pas aller à tel parce qu'il est opposant. Nous ne voulons pas encore. Non.
Donc vous voulez que on puisse avancer avec la démocratie. Vous n'aimerez pas, vous estimez que la transition, ce n'est pas opportun. Merci beaucoup Alidor. Brice, David, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Brice.
Bonjour, bonjour. Gilles.
Transition, c'est aujourd'hui au cœur du débat. Qu'est-ce que vous vous proposez?
Nous, d'emblée, je propose le respect de la Constitution. Dans notre Constitution, on ne prévoit pas une transition. Si nous sommes arrivés à ce point actuellement, c'est par la volonté d'un individu et d'un groupe. L'individu qui s'appelle Joseph Kabila, le groupe qui s'appelle majorité présidentielle. Comprenez qu'ils sont à la fin des mandats, ils
voilà,
refusent d'organiser
Bruce, Bruce,
en bloquant toutes les choses et nous soumettre à une voix suicidaire pour la République.
Bruce, je crois que nous devons, vous connaissez bien le principe de cette émission, quand nous intervenons, nous devons avoir le respect des uns des autres, hein, le respect mutuel et surtout les termes que nous utilisons, il ne faudrait pas que ça puisse blesser ceux qui nous écoutent. Et puis, en fait, voilà. Donc, nous devons tenir compte de cet aspect quand même. Voilà, donc il faut vraiment tenir compte de ça, sinon. Voilà, donc il ne faut pas taxer les gens, les individus, je ne sais pas, c'est dans l'entendement, dans la compréhension générale, ça risque de paraître un peu, bon voilà, donc parler quand même avec des respects, ce sont des autorités.
Voilà, moi je ne suis pas sur la transition.
Oui.
Si vous dites, elle a sous-traité, si on lui donne
une proposition pour nous amener dans la transition. Nous ne sommes pas d'accord parce que la constitution de notre pays est là. Notre pays est régi par une constitution. Qui nous disent comment seront...
Alors vous en tant que population, entre... Brice, qu'est-ce que vous proposez? Qu'il n'y ait pas de transition, qu'on arrive au 20 novembre, qu'il n'y ait pas les élections. Alors, qu'est-ce qui va se passer?
Actuellement, là, si on met les moyens en place, il est encore possible de nous organiser les élections d'ici le 27 décembre.
Merci beaucoup.
Donc, on nous laisse,
merci beaucoup, Brice. Alors, si je commençais par rapport. Donc, finalement, les gens trouvent que c'est une diversion. Parler du dialogue pour aboutir à une transition, ça devient une distraction. Il faut plutôt aller droit, nous dire quelles sont les difficultés, pourquoi n'en allons pas organiser, et qu'est-ce que cela, qu'arrivera-t-il lorsqu'on n'organise pas les élections? Est-ce que les chefs de l'État accepteraient qu'il ait fait mandat et que maintenant il faut une transition, mais pas avec lui, ou pas avec le gouvernement actuel, pas avec la majorité, et l'opposition entrera dans le jeu? Est-ce que c'est comme propose Sénica et que l'opposition prenne devant? Est-ce qu'il faut attendre que le dialogue soit organisé après? Bon voilà, donc tout le monde est d'avis qu'il faut mener le dialogue.
Donc, le problème qu'on a avec le peuple, on est en train de les constater. L'ancien Premier ministre Mouzito disait dans sa 8e tribune qu'il n'y a pas de connexion entre les acteurs politiques et le peuple. On est en train de les découvrir. En réalité,
c'est de manière à qualifier ça de la transfiguration politique.
Effectivement, les politiciens ont leur jeu, et le peuple a aussi son appréhension. Il n'y a pas de connexion. Mais au moins, dans sa 9e tribune, l'ancien Premier ministre s'arrête juste à donner le scénario. C'est possible, effectivement, que l'on puisse maintenir la Constitution en laissant l'option d'organiser les élections. Tout comme c'est possible aussi qu'on se dise que, bon, profitons de cette situation pour résoudre le problème de la légitimité de la Constitution une fois pour toutes. Parce que, dans sa 9e tribune, il dit ceci, on doit tout faire pour mettre deux verrous qui permettront à ce qu'on respecte la Constitution une fois pour toutes. Le deux verrous, c'est quoi? C'est dire désormais que, avant d'élaborer une constitution, l'autorité qui doit l'élaborer doit être élue par le peuple, la constituante élue. Et après, lorsque cette constitution termine son travail, elle doit amener la constitution pour aval auprès du peuple. Donc le peuple devient l'alpha et l'oméga. De telle manière que, dans le futur, lorsqu'il y a de putschistes, lorsqu'il y a des gens qui font des coups d'État,
on a déjà verrouillé.
C'est déjà verrouillé. Avant d'élaborer la constitution, eux-mêmes doivent d'abord rentrer vers le peuple, faire les élections.
On regarde à vous pour conclusion. Il est temps de prendre Maître-Sonville qui nous a rejoint. Maître-Sonville, vous êtes à l'Almachie, bonjour.
Bonjour, monsieur Pierre. Bonjour, monsieur Gire.
Voilà, mais vous avez juste une minute, parce qu'on a pris assez de temps, le temps de retrouver le professeur Emmanuel.
Oui, monsieur Pierre,
juste une minute.
Oui, par rapport à ce matin, monsieur Gire, je dirais, selon certains principes, pour un dialogue réussi, il faut qu'il y ait une volonté politique. Dans ce dialogue, les uns parlent du respect du délai constitutionnel, en fait, concernant l'élection présidentielle. Et or, le seul Congolais qui est interdit de se représenter aux élections, c'est le chef de l'État actuel, dont le pouvoir est finissant. Alors nous disons ceci, les seules solutions qui peuvent être apportées, ce n'est que les élections. Mais aujourd'hui, si notre compatriote parle de la transition dirigée par l'opposition, par quel principe, par quelle procédure, c'est-à-dire
voilà,
que la constitution sera violée.
Voilà, le professeur Emmanuel l'a dit. Voilà, merci. Merci beaucoup, maître Sauville. On revient à vous, professeur Emmanuel.
Oui, alors, je vais commencer d'abord par rectifier. Tout à l'heure, je crois que quelqu'un a dit que tout le monde est d'accord pour qu'on organise le dialogue. Non, tout le monde n'est pas d'accord dans le corps social congolais, sinon il aurait déjà commencé si tout le monde était d'accord. Il y a encore ceux qui pensent qu'il n'a pas été vraiment argumenté. On n'a jamais dit, enfin, on n'a jamais convaincu tout le monde de la nécessité d'organiser le dialogue. Mais bref, est-il que ce dialogue-là, finalement, se donne à lire comme une stratégie de gestion des crises? Bon, mais cette crise-là, on peut noter aussi qu'elle a été artificiellement créée parce que dès lors qu'on avait annoncé les contenus de ces dialogues-là et qu'on avait dit qu'il s'agissait d'examiner enfin, les difficultés qui entouraient l'organisation des élections apaisées, on avait donc compris que ces questions pouvaient être résolues à l'intérieur des institutions régaliennes. Donc, sinon au niveau de la CENI, en tout cas au niveau du Parlement ou au niveau du Congrès, donc le Parlement et le Sénat, pouvaient résoudre ces problèmes-là. Mais ce qu'on peut noter, c'est que chez nous, on a complètement, parce que ce dialogue finalement vient délégitimer ces institutions-là. Les dialogues qu'on va organiser enlèvent aux institutions républicaines et démocratiques le pouvoir qu'ils avaient de traiter des questions majeures de notre pays et des personnes vont être convoquées en constituante sans savoir d'où est-ce qu'ils tirent la légitimité pour légiférer, parce qu'il s'agit, et on comprend en suivant ce qu'ils sont en train de débattre, que finalement la constituante qu'on a appelée le dialogue va légiférer. Mais où est-ce qu'ils vont tirer la légitimité pour légiférer au nom du peuple congolais? Alors qu'il y a des institutions, il y a le Parlement, il y a le Sénat, et il y a la CENI qui existe pour traiter des questions qui concernent l'organisation des élections, et au besoin, il y a une prolongation
voilà.
Si on peut traiter de ces questions-là, mais on
voilà.
Ne peut pas complètement délégitimer.
Oui, professeur Emmanuel, merci beaucoup. Merci, professeur. On va juste aller à des mots également, Steve. Rapidement, en conclusion.
Le dernier mot, effectivement, c'est d'en appeler à la classe politique congolaise d'éviter les fusions de sons, de privilégier toutes les stratégies qui peuvent amener à ce que la constitution soit respectée. Et si ça arriverait que...
Mais finalement, on se rend compte que tout le monde devient prophète. On n'est pas encore au 20 novembre, les gens pensent au sang, les gens pensent au chaos. C'est comme si les gens appellent ces chaos avant même que cela arrive.
Prévoir. Il ne faut pas que...
Alors, il y a plusieurs scénarios. Le scénario proposé par l'ancien ministre, il faut que les gens puissent y réfléchir là-dessus. Également, ce qu'a proposé Steve Mikai et tant d'autres. Il y a Vital Kamerhe qui a parlé d'un dialogue qui va se tenir pour des questions sécuritaires à l'Est. Voilà, donc chacun dit.
C'est la liberté.
Merci beaucoup, Steve Kiwata. Vous êtes juriste. Merci également au professeur Emmanuel Baniouessezi, professeur à l'Université de Lubumbashi et directeur général de l'École supérieure de gouvernance économique et politique. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission Parole aux auditeurs de ce jour. Nous disons merci également à André Monroux qui a assuré la mise en ombre de cette émission réalisée par Pierrot et la Mégie. Julie Fézé était au standard et Jérôme Guimbo vous l'a coordonné. Sous la supervision de Martin Sebou-Jangoué. Nous allons nous retrouver demain dans un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.